Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Radio Classique avec François Geffrier.
C'est parti pour Esprit Libre, il est 8h41. Bonjour François-Olivier Gisbert.
Bonsoir François Geffrier.
Bonsoir à vous.
Oui, pourquoi pas.
Bah pourquoi pas, 8h41, c'est pas 20h40, hein. Bah, on est bien en direct.
C'est couvert.
C'est couvert, oui. Bah, ouais. Bref, couvert. Il fera 26 à Marseille, vous me disiez tout à l'heure. Et si on parlait des sujets qu'on avait prévu d'évoquer?
Oui, très bien, oui.
Alors, voilà un sujet qui a fait tout de suite bondir les syndicats de fonctionnaires. Leur ministre de tutelle, Stanislas Guérini, veut, dit-il, lever le tabou du licenciement dans la fonction publique. Alors, c'est déjà possible, mais là, l'idée, c'est d'une réponse graduée, plus forte, notamment face à l'insuffisance professionnelle. Qu'en dites-vous?
L'heure des comptes est arrivée, quoi. Hein, ça fait longtemps qu'on le dit, avec la montagne de dettes qui s'accumule, aujourd'hui le pouvoir est bien obligé de montrer aux marchés financiers, puis surtout aux agences de notation, qu'ils travaillent, qu'ils vont essayer de gérer mieux. Et c'est le sens, évidemment, de l'intervention de Stanislas Guérini, auquel il faut donner quand même un petit coup de chapeau, même s'il n'a pas eu, à mon avis, cette idée-là tout seul. Maintenant, il va en prendre plein la figure. De quoi est-ce qu'on parle, hein? C'est donc de revaloriser, parce qu'il y a ça aussi derrière, c'est-à-dire de traiter le mérite. Hein, puisque avec cette affaire, on vit dans un monde où, finalement, moins vous en foutez, mieux ça passe, à la limite. Non, mais c'est ça aujourd'hui. Hein. Et je pense que, regardez, il y a eu 13 licenciements, ça ce sont les chiffres que cite tout le temps Guérini, 13 licenciements seulement pour insuffisance professionnelle et 222 pour faute grave, hein, sur 2,5 millions d'agents que compte la fonction publique. Les syndicats, alors évidemment maintenant ils sont déchaînés, hein, si on les pousse un peu ils vont crier au fascisme, mais je pense que si Stanislas Guérini réussit son opération avec l'appui de l'exécutif, ce serait une bonne chose sans doute pour les agences de notation. Là, ils vont peut-être remonter. Bon, c'est pas sûr qu'ils remonteront la note seulement avec ça.
Et Fitch et Moody's doivent nous renoter dans quelques semaines.
Le 26 avril et Standard & Poor's le 31. Le
31 mai. À une dégradation de.
Oui, enfin c'est possible. C'est possible surtout quand on voit les chiffres, quand on voit les déficits qui n'ont cessé de s'accumuler. Hein, ça fait quand même 1000 milliards de dettes. Enfin, on arrivera à ce chiffre en 2027.
Là, on est à 3200 milliards.
Ouais, mais enfin, ça. Non, mais les 1000 milliards de dettes supplémentaires d'Emmanuel Macron, enfin, c'est quand même une belle facture à la fin de ces deux quinquennats. Donc, ce qui est intéressant là dans l'affaire, c'est si on dépasse toute cette histoire, il y a quand même l'idée de la méritocratie. L'idée qu'on a un peu abandonnée en France. C'est très beau, c'est une idée de la Troisième République, très reprise, qui vient des Grecs, hein. Aristocratia, qui signifie le pouvoir au meilleur, sans qu'il soit question d'hérédité. Aristocratia, c'est l'aristocratie, mais c'est l'aristocratie au mérite. Et puis c'est une idée aussi qui vient, faut jamais l'oublier, à l'origine de la Chine impériale. Hein, comme s'en félicitait Voltaire dans un texte, pour devenir fonctionnaire à l'époque de la Chine impériale, quelques siècles avant notre ère, il fallait passer des examens très difficiles. Et j'ai envie de dire aussi que c'est une idée gaulliste. Comme disait De Gaulle, il n'y a point de miracle à moins qu'il ne soit mérité. Il n'y a point de miracle à moins qu'il ne soit mérité.
Les miracles mérités. Il y a la politique, le signal envoyé, puis il y a le contexte budgétaire, vous le disiez. Mais quand même, France, est-ce que Stanislas Guérini ne se tire pas une balle dans le pied quand on voit, à côté de ça, la faible attractivité de la fonction publique? On sait que la fonction publique a malgré tout besoin de recruter, et si possible, des gens talentueux. Les salaires dans la fonction publique ont été revalorisés nettement moins que l'inflation. Quand on leur dit qu'en plus, ils vont plus facilement se faire licencier, qui était à peu près la seule chose d'attractivité qui restait, l'emploi à vie, quand même pas simple.
Ah non, mais ça, vous avez tout à fait raison, c'est un vrai sujet. Le problème, c'est qu'il y a une priorité. Et la priorité, c'est la dette. La priorité, ce sont les rendez-vous avec les agences de notation, là, dans quelques semaines.
Est-ce qu'il y a le feu en France sur les finances publiques?
Je pense, oui. On approche du feu, ça fait longtemps qu'on le dit. Ça fait longtemps qu'on le dit, apparemment tout le monde s'en foutait. Hein, les économistes marxistes, LFistes, vous disent que c'est avec des mots pompeux, scientifiques, que c'est pas grave, que de toute façon la dette c'est bon, que c'est... Mais l'idée quand même très étrange de ce pouvoir depuis 2017, c'est l'idée des socialistes sous François Mitterrand en 1981. Mitterrand, c'est après, il a corrigé ses copies, mais l'idée que c'est en dépensant plus qu'on va créer de la croissance. Ben, on a vu le résultat. Aujourd'hui, on n'a pas de croissance et on a un énorme endettement. Et d'où l'idée, évidemment, d'envoyer des messages aux agences de notation. On va s'en occuper parce que, vous voyez, en France, n'oubliez jamais, vous avez raison, elle n'est pas attractive, la fonction publique. Mais vous savez pourquoi aussi? Un salarié sur cinq en France travaille dans la fonction publique. 21%. Hein, c'est, ils travaillent dans la fonction publique de l'État, dans la fonction publique territoriale ou hospitalière.
C'est 5 700 000 fonctionnaires.
Ben oui. Et c'est beaucoup plus que l'Allemagne, où le chiffre est, vous savez, deux fois moins. 11%. Un salarié sur 10. 1 sur 5 chez nous. 1 sur 10 en Allemagne. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Vous voyez très bien. Et tout ça, évidemment, c'est le contribuable qui paye. Par exemple, la charge de la dette, la charge de la retraite des fonctionnaires. Il y a un institut, Molinari, c'est un petit institut génial, qui a calculé l'an dernier que l'État avait géré les retraites de ses fonctionnaires. C'est que si l'État, pardon, avait géré les retraites de l'État, les retraites de ses fonctionnaires, comme l'ont été celles des anciens salariés, là, de la Banque de France, il aurait économisé 50 milliards. Oui, oui. Ce régime de la Banque de France, il a placé 15 milliards d'euros qui couvrent les besoins en retraite et il s'autofinance avec les gains. Nous, eh ben, on met 50 milliards au pot chaque année. Voilà. Et ça, je crois que c'est un des sujets parmi d'autres. Il y en a plein d'autres, par exemple. Vous avez raison, c'est pas attractif, mais enfin, on a embauché, je sais pas, si j'en crois l'INSEE. Alors évidemment, après, le gouvernement vous dit non, c'était pas 59 000 fonctionnaires, c'était juste 8 000 qu'on aura embauché. Mais enfin, bon, en tout cas, on embauche à tire-larigot. J'ai plutôt tendance à croire l'INSEE que le gouvernement. Vous voyez, c'est comme ça.
Et justement, le gouvernement, Bruno Le Maire, qui se fait le héros du redressement des comptes publics et qui s'est désolé plusieurs fois que le sujet n'intéressait personne, est-ce qu'il est seul contre tous au gouvernement?
Un peu, c'est un peu dommage. Bruno Le Maire, depuis qu'il est là, il le dit. Il le dit, meso voce, c'est ce qu'on peut peut-être lui reprocher. On peut dire aussi qu'il aurait dû démissionner. Enfin bon, il est resté, mais il a continué à tenir toujours à peu près le même discours. Bon, il y a autre chose évidemment avec Bruno Le Maire, c'est que de toute façon, Emmanuel Macron ne peut pas l'encadrer.
Mais c'est le ministre le plus long à Bercy de tous les temps.
Mais depuis 2017, il ne peut pas... Oui, c'est compliqué parce que Bruno Le Maire a réussi à se rendre indispensable. C'est-à-dire
dès la campagne, quand il a démissionné départ, de celle de François Fillon pour rejoindre celle d'Emmanuel Macron.
Voilà, mais au départ, c'est pas non plus un économiste. Mais apparemment, il a bossé et puis il a un certain rayonnement international. Donc c'est quand même quelqu'un de... C'est un pilier un peu compliqué à les placer.
Et normal sup, hein.
Alors ça, c'est aussi peut-être une des raisons. Vous avez raison, c'est un peu vicieux, votre question. Des raisons aussi de l'hostilité d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il est hyper capé. N'oublie jamais qu'Emmanuel Macron, il a que fait l'ENA, il a raté deux fois Normal Sup. Et que, Wauquiez et Le Maire.
J'ai oublié de dire qu'il a eu l'agrégation de Lettres Modernes, Bruno Le Maire.
Ouais, exactement. Ouais. Alors, bon, il était premier d'ailleurs même, comme Wauquiez qui était premier à l'agrégation d'histoire, mais alors il n'a pas été major, Le Maire, alors que Wauquiez lui était major. Mais bon, c'est sûr que Macron il n'aime pas ça, hein. Mais bon, je pense qu'il y a autre chose aussi entre eux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui écrit très bien, Bruno Le Maire. Et je vais vous dire, on se dit qu'est-ce qu'il va faire après? Moi je sais ce qu'il va faire. Il a fait un excellent livre il y a quelques années qui avait eu un gros retentissement sur ses années quand il était directeur de cabinet de Dominique de Villepin sous la présidence de Jacques Chirac. Ça s'appelait Les Hommes de Pouvoir. Moi j'attends le livre qu'il va nous faire sur Macron. Ah mais ça va être un... Mais
alors, je vais vous dire, ça ce sera s'il échoue à rentrer lui-même à l'Élysée sans doute en 2027.
Non mais il a le temps de l'écrire d'ici là, parce que je suis pas sûr qu'il va rester très longtemps maintenant.
Oui.
Bah, peut-être rester encore quelques mois, mais je suis pas sûr.
Il faut préparer la sortie, le bon moment, et l'argument est tout trouvé, puisqu'on lui refuse.
Les Français ont compris, c'est-à-dire ils ne sont pas d'accord. Mais ils ne sont pas d'accord depuis longtemps.
François-Olivier Gisbert, la CGT avait prévenu, elle met sa menace à exécution et a déposé des préavis de grève dans la fonction publique. On y revient pour la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les trois branches, fonction publique territoriale, nationale et hospitalière. Est-ce que il y a un début d'engrenage qui se met en place d'une grève JO?
C'est pas sûr. C'est pas sûr parce qu'il faut aussi faire confiance aux Français. Ce qui est vrai avec cette histoire, c'est qu'on touche le fond. Je dirais c'est vraiment la honte de la jungle. Ce préavis de grève donc du 15 avril au 15 septembre, il tombe en plein pendant les JO et il demande donc des syndicats CGT, il demande des compensations salariales pour les contraintes liées aux Jeux Olympiques. Alors moi, je comprends très bien qu'on n'aime pas Emmanuel Macron ou Anne Hidalgo qui croient qu'ils vont se refaire une santé avec les JO. Mais franchement, la haine, enfin, je dirais dans cette réaction syndicale, on peut voir une sorte de haine de soi, haine de la fête, haine du patriotisme. Enfin, j'emploie des grands mots, mais qu'est-ce qu'il disait le grand philosophe historien Ernest Renan dans sa célèbre conférence à la Sorbonne en 1882? C'est un texte absolument magnifique, il faut relire, c'est un petit texte, très court. Et on comprend, quand on lit, ce qu'est une nation. Une nation, disait Ernest Renan, c'est une âme, un principe spirituel. Il ajoutait, le désir de vivre ensemble, la volonté de faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Bon, eh ben, je trouve que, si vous voulez, quand on voit cette réaction de la CGT, quand on voit aussi... Je ne compare pas du tout, ça n'a aucun rapport. L'attaque au couteau d'hier soir à Bordeaux, les morts d'ados des derniers jours, on voit bien qu'on n'est plus là-dedans. On se réveille ? Je pense qu'il serait temps de se réveiller.
Il est temps de se réveiller, c'est le message que vous lancez ce matin, François-Olivier Gisbert. Merci beaucoup, notre esprit libre, comme chaque jeudi sur Radio Classique. Avant de conclure cette matinale, on va écouter un tout petit peu de musique, puisque aujourd'hui, à l'Élysée, on y revient. Sauf qu'aujourd'hui, c'est Vladimir Kosma qui sera à l'Élysée pour recevoir un nouvel insigne de la Légion d'honneur. Il était chevalier, il est promu officier. Alors Vladimir Kosma, on l'adore, vous l'adorez.
Un grand monsieur.
On écoute un extrait de la bande-annonce, de la bande originale plutôt, de La gloire de mon père. Père et la partition de Vladimir Kosma qui est promu officier de la Légion d'honneur. Aujourd'hui même, il recevra son insigne. Voilà pour Vladimir Kosma. Puis autre événement, en tout cas une date, un anniversaire dans l'actualité, 11 avril, aujourd'hui 2024. Eh bien le 11 avril 1977 disparaissait Jacques Prévert. Il y a donc 47 ans, l'immense Jacques Prévert. Alors il n'a pas beaucoup chanté lui-même, mais ses chansons ont inspiré évidemment des grands noms comme Serge Gainsbourg, mais aussi comme les frères Jacques.
Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas.
Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas.
Un homme sous un Porsche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara.
Les frères Jacques qui chantaient en 1950 Barbara, ce magnifique poème signé Jacques Prévert qui est donc disparu il y a tout juste 47 ans. Et ça faisait plaisir d'écouter Barbara et les frères Jacques sur Radio Classique. 8h56, dans quelques instants, la météo, le journal.